gourmets, gourmettes, passionnés d'alimentation, de restauration, de gastronomie tout court, ou de plaisir, soit-il de la bonne chère celle qu'on mange. Eh bien, je vous salue bien, bien bas, et je suis très content d'être avec vous au microphone Philippe Mollet, en compagnie de mon ami Bruno Gogelminetti, qui réalise l'émission depuis maintenant 93e émission. Ben oui, on arrive, on approche la centaine, on est bientôt, on commence à être vieux là, 93 ans, on commence à être vieux. C'est le 9 avril et je vous remercie d'être fidèle au poste, d'être toujours présent aussi nombreux comme chaque mardi. Aujourd'hui, je vais vous parler de poissons méconnus et pourtant, ces poissons mériteraient ce qu'on les consomme beaucoup plus que ce qu'on consomme en ce moment et que l'on arrête de vider, de consommer que du saumon parce que, ou du thon rouge. Parce que, bon, le saumon, il y en a en quantité, c'est sûr, mais c'est un poisson polluant qui, de par la production intensive de saumon, dégage beaucoup de toxicité dans l'eau et ainsi de suite, en plus de rejeter certains antibiotiques, donc il faut quand même être prudent. Alors moi, je vous parle aujourd'hui de quatre poissons que vous connaissez peut-être de nom, mais que vous connaissez peut-être pas au niveau du goût pour ne pas les avoir essayés. C'est bien dommage pour vous. Le maquereau. Le maquereau, c'est un poisson qu'on considère comme un poisson fusiforme, donc en forme de fuseau. Les poissons sont considérés comme poissons plats, comme la sole, poissons fusiformes, comme le saumon ou comme le maquereau, poissons ronds, donc un peu plus gros, donc comme le thon. Okay? Et c'est la façon dont on les classifie là, au niveau de la législation. Alors, le maquereau, c'est un poisson gras. Il fait aussi partie de la nomenclature des poissons gras, très riche en oméga 3, oméga 9. Très recommandé, au même titre que la sardine, si vous voulez. Mais malheureusement, il n'est pas très populaire. Parce qu'il y a des arêtes. Or, ces arêtes sont très faciles à enlever lorsque le poisson est bien cuit. Moi, je vous dis ça parce que j'ai déjà commencé à sortir le barbecue. Et c'est un produit que j'aime bien faire griller sur le barbecue. Bon, on en reparlera là, quand on parlera du barbecue, mais c'est un poisson très agréable. Alors, vous pouvez le cuire directement à la poêle, mais je préconise qu'on le cuise au four. Et lorsqu'il est cuit, vous le séparez en deux, vous enlevez tout de suite l'arête centrale et vous allez voir que c'est assez facile. Même s'il y a des petites arêtes sur le côté, elles se dégagent très très bien. Maquereau à essayer. Vous le servez soit nature, soit avec du gros sel, soit avec un filet d'huile d'olive dans lequel vous pouvez ajouter des dés d'avocat ou un peu de tomate et de la coriandre et c'est magnifique. Numéro 2, la raie. Ça c'est pareil, c'est un poisson qui est complètement méconnu. C'est dommage parce que c'est des poissons ça, qui coûtent une fortune dans les restaurants en Europe. Je vous le dis, là, quand vous voulez manger de la raie en Europe, une raie au beurre noir, d'ailleurs maintenant c'est interdit là, par la législation, on ne peut plus faire le beurre noir parce qu'on s'est rendu compte que c'était hyper toxique. Donc on va faire un beurre noisette sans faire le beurre noir. Là. Et dans le temps, les anciens me racontaient qu'ils cuisaient le steak dans le beurre noir. On mettait du beurre et puis on cuisait le steak là-dedans, ben, à déconseiller. Donc la raie, c'est un poisson qu'on considère... Vous savez, on ne mange que l'aile de raie, donc malheureusement une petite partie de ce poisson qui est consommable. Et c'est un poisson qui prend l'ammoniaque très très rapidement s'il n'est pas consommé rapidement. Facile pour voir pour vous si la raie est fraîche, parce que si elle sent l'ammoniaque, ne l'achetez pas. Donc on va la pocher dans un premier temps dans un court bouillon, dans lequel vous ajoutez un peu d'échalote, du persil, quelques grains de poivre, lorsque ça bouille, une poignée de sel. Vous pochez votre raie à l'intérieur et ensuite vous pouvez l'effilocher, soit la faire à la poêle directement, passer dans la farine ou comme ça directement, moi j'aime bien. Et ça, la raie a un avantage, c'est que ce n'est pas d'arêtes, c'est du cartilage. Donc vous ne risquez pas de vous étouffer avec les arêtes, ceux qui ont la psychose des arêtes. Moi j'ai fait manger ce poisson à des enfants qui pensaient que c'était du poulet. Donc vous voyez, la ressemblance de la texture au niveau de la viande est très semblable, mais c'est très très agréable. Donc très bon poisson à recommander. La lotte, qui a 60% de son volume représenté par la tête que l'on ne peut pas consommer, qui est affreuse et qui fait peur. Quand vous voyez une lotte entière avec la tête, ça, vous n'avez pas envie de manger la queue de lotte, je comprends. Mais c'est absolument très fin. C'est un poisson qui demande une certaine préparation, très très intéressant et je vous le conseille parce que c'est un des meilleurs poissons qui existent, très raffiné, très recherché. Donc la lotte, c'est à découvrir là, puis à faire chez vous. Le colin, ça c'est un poisson fusiforme aussi, c'est un poisson qui n'est pas beaucoup connu ici, qui est très valorisé en Europe maintenant, dû aussi au manque de ressources, ben, on cherche un peu des poissons moins nobles. Donc c'est un poisson qui est extrêmement intéressant. Il y a une arête centrale là par contre, mais il faut le préparer, on peut le faire frire, on peut le faire au beurre directement, passer dans la farine, et vous pouvez aussi le pocher. Donc le colin, retenez ça, c'est un poisson. Et le dernier qui est l'espadon, qui est un peu de la famille des thonidés, qui est un gros poisson dans lequel on va surtout faire des steaks d'espadon que l'on va faire griller. Encore là, le barbecue a un intérêt, vous pouvez le faire à la poêle aussi. C'est très recherché. Alors voilà, ça c'est pour vous donner des idées là, de poissons qui ne coûtent pas très cher et qui sont pas des ressources en voie de disparition. Donc vous pouvez les trouver chez les poissonniers, puis je vous suggère de les acheter et de les consommer, vous allez les adorer. Changement de culture, vous me direz, et de goût, africanisez-vous. Ben oui, on est en train de voir d'une façon vraiment intéressante l'Afrique descendre sur les tables un peu partout et avec des chefs qui ont séjourné la plupart en Europe, qui sont en train comment je dirais, de démystifier la cuisine africaine traditionnelle. Quand on regarde, moi qui ai eu la chance de vivre 2 ans en Côte d'Ivoire, quand on regarde la cuisine traditionnelle africaine, c'est plutôt une cuisine de maquis, c'est plutôt une cuisine de maman, de petit bistrot, mais c'est pas une cuisine gastronomique. Or, ce qu'ont fait ces chefs, c'est qu'ils ont adopté un peu les techniques existantes, les produits, surtout le manioc, la patate douce, bon, plusieurs produits comme ça, la banane plantain, qu'ils vont adapter à des produits d'ici ou des produits d'Europe ou d'autres produits, autre que l'agouti, qui est un espèce de ragondin, là, qu'on ne mangera pas, mais ils vont adapter cette cuisine en gardant, en conservant aussi la valeur des épices. Donc, de plus en plus, on voit des restaurants, il y en a même à Montréal qui font affiche complète, là, maintenant. Donc, on voit un intérêt chez les consommateurs pour découvrir cette cuisine complètement méconnue et qui prend de l'ampleur un peu partout sur la planète, partout. Je regarde ce qui se passe en Europe, en France, en Espagne. On voit de plus en plus de cuisine africaine et des jeunes chefs très talentueux qui vont même chercher des étoiles au Michelin. Donc ça ouvre la porte là, les nouveautés. Alors soyez prêts, ça c'est l'évolution alimentaire telle qu'on la connaît. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand on est arrivé avec les premiers sushis au Québec, c'était pas terrible. Les gens mangeaient pas de poisson cru, on mangeait du poisson cuit, puis souvent parce qu'on était forcé de manger du poisson le vendredi. On est passé de ça au sushi, maintenant on va vers d'autres choses au niveau des préparations. Alors c'est un peu ce qui se passe avec la cuisine africaine. On va découvrir les produits, les épices, les préparations, et voilà, ça nous fait faire un voyage dans cette grande Afrique. C'est intéressant, vous verrez, essayez là, puis vous êtes intéressant. Donc un changement de culture radical qui nous amène à ces nouveaux restos. J'ai découvert aussi, en parlant avec mes fromagers attitrés, que la raclette, qui est un fromage produit partout, mais maintenant très très bien fait au Québec, la fromagerie du Presbytère d'ailleurs, qui a gagné des prix avec sa raclette, donc ils en font un peu partout, et c'est le fromage le plus vendu au Québec durant les mois d'hiver. Moi j'étais surpris, hein, parce que je me disais, c'est intéressant des fois de poser des questions comme ça à des fromagers, des statistiques qu'on a, on ne sait pas, on dit bon, ben, tant qu'il fait frais, maintenant la raclette c'est devenu un plat, je vais pas dire national, un peu comme la poutine là, mais c'est devenu un plat vraiment très très populaire au niveau des soirées familiales parce que c'est convivial, c'est facile à faire, ça n'implique pas une grande cuisine. Donc on voit de plus en plus d'intérêt là pour faire ces raclettes au fromage et servir avec des petites pommes de terre, avec la viande des grisons, des charcuteries, des cornichons, des petits oignons et ainsi de suite. Donc on voit un intérêt là au niveau du public. Puis la preuve, c'est que dans les ventes, bah, c'est le premier fromage vendu au Québec durant les mois d'hiver. Et je regarde un peu, c'est un peu la même chose en Europe, hein. Ça reste un produit très très recherché là. Maintenant, au niveau convivialité, on parle de la fondue suisse, mais comme c'est plus compliqué à faire, bah, c'est moins populaire. Pas parce que c'est moins bon, c'est parce que c'est plus compliqué à faire et à réaliser. Alors voilà, ça c'est une information. Et je voulais vous parler des légumineuses, parce que les légumineuses souvent sont un remplacement au niveau des protéines, souvent les nutritionnistes vont les recommander. Oui, mais on a déjà parlé de ça. Mais je vous le remets au goût du jour parce que il est sorti des articles un peu cette semaine dans différentes revues, donc Science et autres. Il est sorti des statistiques qui démontrent que, et c'est pas drôle ce que je vais vous dire, que des plus mauvaises légumineuses, ben, elles viennent de l'Ouest, du Canada, qui est un gros pays producteur. Pourquoi? Parce que on traite d'une façon exagérée au glyphosate, à toutes sortes de pesticides, ces légumineuses. Et je vous dis, soyez vigilants lorsque vous achetez des légumineuses du Canada. Assurez-vous qu'elles soient biologiques ou assurez-vous de bien, 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 bien les laver à plusieurs reprises Puis des fois, je me pose même la question à savoir si on va être capable de retirer certaines pesticides qui sont à l'intérieur, parce que ce sont des grandes cultures et qui sont interdites hein, dans certains pays maintenant. Donc, on bloque certaines importations de légumineuses du Canada parce que justement, elles sont pleines d'OGM, elles sont remplies de pesticides et ça, c'est vraiment à faire attention. Donc, soyez vigilants pour vous tous, pour votre santé personnelle. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. Ça veut dire que, bon, enfin, vous savez ce que je pense. Alors, mes chers amis, je suis désolé de finir sur une note si peu valorisante et concluante, mais il faut que je vous dise aussi la vérité. Ça fait partie de l'émission, de dire des vraies choses, de dire c'est pour ça que vous nous aimez bien. Et puis, ben, moi, je vous souhaite une belle semaine en gastronomie, en plaisir. Et puis, écoute, à la semaine prochaine, là, on va préparer nos barbecues, là. On y arrive. Allez, je vous embrasse. Salut. Bye bye, bonne semaine.